L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juin, mercredi encore ensoleillé, peut-être pas pour très longtemps, mais ça on vous en parlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va aussi parler de l'escape game qui est proposé au domaine du Denay à Saint-Denis-d'Anjou, mais aussi d'une collecte de protection périodique qui a eu lieu à Château-Gontier il y a quelques jours. Mais avant, je n'ai pas dit bonjour à Claire. Salut Claire, comment ça va ?
Salut Marie, salut tout le monde. En direct à Laval, toutes les deux.
Exactement, on change. Attention, grande migration entre Château-Gontier et Laval. Même changement de fuseau horaire, enfin, ouais, rien ne va plus. Non, au contraire, évidemment, émission en direct de Laval, c'est très bien, ça change. Et là aussi, il fait beau et on va faire une émission tout aussi, on va essayer en tout cas, tout aussi qualitative que d'habitude. On va aussi parler justement dans cette émission, puisque c'est toi qui as fait l'interview, Claire, des journées photographiques à Laval. Ce sera à partir de vendredi.
C'est ça, une association qu'on ne connaît pas forcément tous beaucoup, c'est Laval Image, qui existe depuis de nombreuses années, il vous expliquera tout, le président, avec des photos amateurs et aussi professionnelles. Donc un rendez-vous pour tout le monde.
À ne pas manquer en tout cas cette interview que tu as réalisée. Et puis aussi on commence une mini-série, et oui, 3 jours, mais c'est une mini-série quand même, pour découvrir les portraits des sportifs qui participent aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été, des sportifs mayennais bien sûr, et vous entendrez le premier, ce sera Gabriel Bordier en fin d'émission.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, pas de concert dans les bars et restaurants pour la fête de la musique.
Une décision prise par la préfecture de la Mayenne, ne seront pas autorisés non plus ce lundi 21 juin les concerts sur la voie publique pour éviter les attroupements. Seule possibilité, des concerts organisés dans des établissements recevant du public, sauf ceux cités plus tôt, en extérieur ou en plein air, avec un public assis et une jauge limitée à 65%. Le pass sanitaire est exigé au-delà d'un millier de personnes et le couvre-feu maintenu à 23h.
Le Maine-et-Loire et la Mayenne sous le seuil d'alerte pour la Covid-19.
Les derniers indicateurs de l'Agence régionale de santé sont encourageants. Les taux d'incidence sont en dessous de la barre des 50 cas pour 100 000 habitants dans la région et pour la Mayenne plus précisément à 41,6. Net recul aussi pour le taux de positivité des tests qui s'établit à 1,7%.
Deux blessés dans un accident à Chorigny, hier.
Une voiture seule a terminé sa course sur le toit dans un fossé sur la départementale 33. Ça s'est passé donc hier vers 16h. La conductrice âgée de 33 ans a été légèrement blessée, mais sa passagère âgée de 72 ans a été elle plus grièvement blessée. Toutes les deux ont été transportées au centre hospitalier de Mayenne.
L'hôpital de Mayenne qu'on s'apprête à dépecer selon Audaz 53.
L'association des usagers pour la défense de l'hôpital dénonce la concentration d'un certain nombre d'activités à Laval, aux dépens du centre hospitalier du Nord-Mayenne et notamment le transfert d'une grande partie de la chirurgie sans aucun gain pour le centre hospitalier du Nord-Mayenne. Une décision qui aggraverait la situation selon l'association alors que l'hôpital de Mayenne connaît déjà une réduction de ses moyens depuis 5 ans. Audaz 53 appelle dès maintenant la population à montrer son opposition à ce projet.
La Mayenne représentée à l'Élysée par l'entreprise Hermo.
Lors de l'exposition du Fabriqué en France, ce sera les 3 et 4 juillet prochains à l'Elysée. Hermo est basée à Marcilly-la-Ville dans le Nord-Mayenne. Elle est spécialisée dans la conception de moules pour la réalisation de pièces en plastique comme des bouchons, du matériel médical ou des barquettes. Lors de la première édition de l'événement l'an dernier, c'est l'entreprise La Sérape de Goron qui était allée à l'Elysée pour représenter la Mayenne.
Retour des bons d'achat de Laval Agglo pour soutenir les commerces.
L'opération de Laval Agglomération a même été élargie aux cafés, aux hôtels, aux restaurants, sans oublier la culture et le sport. Le principe, à partir de demain, chaque habitant peut s'inscrire sur ticket-commerçant.fr et télécharger 10 tickets d'un montant total de 50 euros. Des tickets donc de 5 euros chacun qui peuvent être utilisés dès 25 euros d'achat, valables un mois, sauf pour les tickets dédiés aux licences sportives et culturelles. Coût de l'opération pour la collectivité, 400 000 euros.
La Mayenne placée en vigilance orange.
Oui, par Météo France qui a placé le département comme 24 autres en alerte orange pour les orages à partir de 15h cet après-midi et jusqu'à 4h du matin demain. La situation devrait ensuite se dégrader les prochains jours avec des orages et de la pluie. 40 mm sont attendus notamment ce jeudi et vendredi.
Et Marie, elles ont récolté pas moins de 41 kg de protection périodique.
Deux stagiaires du CIAS de Château-Gontier, le centre intercommunal d'action sociale, ont mené une collecte de serviettes hygiéniques. Un projet initié par la Banque alimentaire de la Mayenne à destination des bénéficiaires de l'épicerie sociale courte échelle à Château-Gontier. Avec un beau bilan pour cette première, 343 paquets récoltés en une journée le 28 mai à Leclerc, soit 41,2 kilos. À la surprise et à la grande satisfaction de Philippine Forget, stagiaire au CIAS et étudiante BTS économie sociale et familiale à Laval.
Il y a eu des refus justement par rapport aux personnes âgées qui étaient plus en retrait. Les jeunes étaient plus sensibles à ça, du coup ils allaient plus facilement vers nous, surtout les jeunes garçons qui étaient plus avenants et qui donnaient beaucoup justement. On pensait du coup qu'il allait y avoir beaucoup moins de dons et au final ça s'est très bien passé. On a rempli 4 caddies pleins de protection hygiénique.
Des protections normalement accessibles à 40% du prix classique à courte échelle. Celles-ci seront donc gratuites. Une belle économie pour les femmes et les jeunes filles concernées. Retour sur l'origine du projet avec Nolwenn Guérin, vice-présidente du pays de Château-Gontier en charge du CIAS.
L'initiative, elle est de la Banque alimentaire. On a été interpellé par Monsieur Sanchez, le président de la Banque alimentaire de la Mayenne, qui nous a demandé si on pouvait les accompagner dans ce projet-là, puisque les banques alimentaires est le premier donateur pour l'épicerie courte échelle du pays de Château-Gontier. Au départ, nous savions pas ce qui allait être fait. On pensait les donner à la Banque alimentaire et que ça serait réparti après différemment sur la Mayenne. Et non, en fait, Monsieur Sanchez nous a dit que tout ce qui avait été récolté à Château-Gontier restait pour le pays de Château-Gontier dans le cadre de cette épicerie sociale. Oui, il y a à la fois les mères de famille, mais aussi les adolescentes qui sont accompagnées de leur maman pour pouvoir acheter ce genre de produits et dont elles ont besoin de façon mensuelle. J'imagine que le budget, si elles sont là, c'est que le budget court, c'est déjà un budget très lourd au niveau du fonctionnement de la famille. Donc forcément, c'est quelque chose qui s'additionne à un budget. Donc oui, si on peut là leur offrir pour le coup, si ça peut leur être donné, forcément, ça va alléger le budget.
Devant le succès de l'opération, elle pourra être reconduite l'année prochaine.
Et Marie, deuxième sujet, deuxième reportage, bienvenue dans un grand labyrinthe en plein air pour un escape game.
Et oui, à Saint-Denis d'Anjou, tous les mercredis soirs, le domaine du Denet s'anime et propose un grand escape game. Le principe par équipe avec au total entre 10 et 50 participants. Vous devez résoudre des énigmes pour réussir à sortir du labyrinthe. Et ce n'est que l'une des nombreuses activités proposées sur place, comme le précisent les deux comédiens et propriétaires Virginie Rogue et Frédéric de Coninck.
Alors au Denet, on accueille trois types de publics. On accueille des gens en réception, donc des mariages, des fêtes de famille, avec une salle de réception, une grande terrasse en construction et la possibilité de loger 50 personnes sur place. On accueille également des joueurs, parce qu'il y a vraiment une identité très très forte ici du jeu avec des labyrinthes végétaux. Et il y a également un théâtre et donc une compagnie qui s'appelle Idédale, qui est en résidence à l'année ici, et donc qui permet de développer aussi beaucoup d'activités artistiques sur le lieu.
On accueille des jeux et le Domaine du Denet organise aussi des jeux. Il organise ses propres jeux, qui sont des sortes de murder party, des escape games, des parcours sensoriels. On joue aussi maintenant un petit peu sur le domaine de l'airsoft, en reprenant un thème favori pour l'instant des ados, qui est un petit peu Fortnite. C'est un grand terrain où il y a 15 hectares. Et ces 15 hectares, on a essayé de les segmenter pour en faire différents tableaux, avec des labyrinthes, un labyrinthe pour se trouver, un labyrinthe pour se perdre.
Comme il y a une configuration, on est sur une ferme qui date de 1850. Il y a également une ancienne grange qui est devenue une ruine, mais qui est aussi un super terrain de jeu, parce qu'une ruine illuminée la nuit, ça donne une autre ambiance. On a un amphithéâtre de verdure qui est à l'autre bout du terrain. On a une mare, on a ces deux labyrinthes, un troisième en construction. On a volontairement laissé pousser beaucoup la végétation. On essaie aussi de recréer un écosystème ici. Et donc là, concrètement, tout le mois de mai et juin, tous les mercredis soirs, on proposera un rendez-vous qui est donc l'escape game. Donc là, avec inscription avant, tout ça sera sur notre site internet, évidemment. Et donc, ça, c'est mai et juin, tous les mercredis soirs. Dans les autres rendez-vous, de début juin jusqu'à fin septembre, il y aura là, tous les jeudis soirs, une battle royale. Alors nous, ce qu'on propose, dans un premier temps, c'est un lieu de résidence artistique, avec vraiment l'envie qu'il y ait de la création. C'est aussi que les habitants de Saint-Denis d'Anjou deviennent aussi le public des sorties de création, des sorties de résidence. Après, on a vraiment envie que ça soit un lieu qui vive, donc on a notre compagnie Idédale, effectivement, mais on accueille également d'autres compagnies, comme Pépite en Vrac, qui fait du clown, qui vient faire des stages ici. On a envie que le Denet devienne vraiment un lieu artistique dans lequel il y a du mouvement.
Et ce sera encore plus vrai lorsque les conditions sanitaires se seront assouplies à nouveau. Des spectacles pourront être accueillis et devraient être accueillis dans le petit théâtre installé justement au cœur du domaine. Alors là, on parle non pas théâtre, mais on va parler photo à Laval ce week-end à l'occasion des journées photographiques de Laval, si bien nommées. Mais ça, ce sera dans 3 minutes, juste après Nick Waterhouse. On écoute Song for Winners. For Winners de Nick Waterhouse dans l'AJT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Song for Winners, est-ce que ce serait pas un petit clin d'œil au foot? Bah oui, on parle de foot, désolé, c'est l'Euro de foot, c'était le premier match des Bleus hier, ils ont gagné 1-0. Song for Winners peut-être?
Ah, bien joué Marie! J'ai pas pu t'empêcher de le dire par contre, c'est vraiment, on parle foot.
Ah oui, non, mais quand même, c'est le premier match des Bleus. Et puis d'ailleurs, je tiens à souligner ton talent en pronostic, puisque tu avais dit 1-0 hier, c'est effectivement le score qu'il y a eu. Donc bravo. Exit le foot, on arrête Marie, et on parle surtout des journées photographiques de Laval ce week-end, avec deux expositions prévues, Claire.
Et oui, une professionnelle et une pour les adhérents amateurs. Un moyen de se retrouver après ces périodes de confinement et d'exposer enfin ses œuvres et ses photos. L'occasion pour nous de découvrir Laval Images, l'association organisatrice de ces expositions, et de discuter avec Gildas Charles, photographe et président de l'association.
Il va falloir remonter à 1964. Et c'était un nid de personnes qui enregistraient les sons. Et à l'issue, ils se sont regroupés avec des personnes qui faisaient des diapos. Et donc, on diffuse des diapos et on les accompagne des sons d'ambiance. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu juste une association de photographes amateurs. Donc, Laval Images, en tant que tel, de mémoire, le nom est arrivé au début des années 2000.
Et qu'est-ce qu'on peut y faire à Laval Images?
On essaye de se réunir tous les mois. Alors, je dis on essaye puisqu'on est en période encore Covid. Donc traditionnellement, il y a une réunion mensuelle qui concerne la photo du mois où chaque adhérent vient présenter une photo Alors, il les a présentés avant. Il y a un comité de lecture qui s'est réuni. On va parler ensuite de la photo, de ce qui a été fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, c'est un travail assez intéressant d'analyse de la photo. Donc, ça impose aussi d'accepter de se confronter au regard des autres. Et donc, de présenter des photos qui peuvent être réussies, qui peuvent être ratées. Et on explique pourquoi elle est ratée ou on explique pourquoi elle est réussie. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager les connaissances de chacun. Ses connaissances en termes de photographie ou de logiciel, parce qu'il y a la pratique photo en tant que telle avec l'appareil, qui peut être un smartphone, qui peut être un appareil photo réflexe, qui peut être un appareil photo hybride. Et ensuite, il y a la partie traitement de la photo. Alors la partie traitement, ça peut être juste, je prends la photo, je la sors de l'appareil et j'augmente un peu le contraste, je l'améliore un petit peu. Et puis après, il y a parfois du gros travail. Alors c'est vrai que nos expositions qui vont arriver mois de juin, vont permettre de voir justement l'étendue des pratiques, parce que c'est pas un seul thème, il y a du paysage, il y a du portrait, il y a de l'animalier, et puis aussi des traitements qui sont impliqués. On a des adhérents qui travaillent énormément leurs photos. À la fin, on a presque l'impression que ce n'est plus une photo, ça devient presque une peinture pour certains.
Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus, l'évolution des technologies, forcément, on fait un peu évoluer même vos réunions, j'imagine de discuter de tirage à l'époque négative, etc. Et là, de les montrer sur grand écran, par exemple.
J'ai intégré la Valimage en 2012. Dès 2012, il n'y avait plus d'adhérents qui travaillaient en argentique. On a eu un adhérent qui est arrivé entre 2012 et aujourd'hui, qui faisait de la photographie argentique, qui faisait même de la photo à la chambre. Voilà. Mais il ne fait plus. Il est passé au numérique depuis 3 ans. Il commence aujourd'hui à nous faire des photos qui ressemblent à ce qu'il faisait à la chambre argentique. Ça, il a réussi à s'approprier l'outil numérique. Et oui, le numérique a apporté de grandes facilités dans le traitement de la photo et dans les possibilités de faire des photos. Si je demandais aux adhérents lesquels ont envie de repasser à la photographie argentique, je crois qu'il n'y en aurait pas un. Je ne pense pas. Il y a trop de facilités aujourd'hui, trop de possibilités pour justement dépasser la problématique technique.
En fait, on voit une mode peut-être auprès des jeunes avec les Polaroid ou ce genre de choses, mais en fait, ça s'adresse vraiment aux jeunes amateurs et j'imagine que les professionnels restent sur des techniques numériques ou...
Imagineriez-vous que nous sommes une association de vieux ? C'est ça ?
Pas du tout.
On a des jeunes. Hein, l'adhérent le plus jeune aujourd'hui, il aura 12 ans cet été et ça fait déjà 3 ans qu'il est, presque 4, qu'il est au club. Il y a toujours, on va dire que c'est comme la mode, il y a des cycles. Donc là, il y a un cycle où on revient vers de la photographie un peu plus instantanée. Alors, est-ce que ce sont des outils numériques comme Instagram qui jouent sur cette instantanéité, qui permettent d'améliorer très rapidement une photo, hop, je la publie, et on a ce format carré qui ressemble en effet à ce qu'on avait avec les Polaroid. Donc oui, il y a peut-être aussi ce besoin de revenir vers quelque chose de plus matériel. Alors une exposition comme on la propose va être l'occasion, ne serait-ce que pour les adhérents, de découvrir leurs photos autrement que sur leur écran. On va imprimées, elles sont déjà d'ailleurs imprimées, je vais aller les récupérer tout à l'heure, une partie des photos, elles sont imprimées, donc ça va être l'occasion de les voir. Alors, les voir au mur imprimées ou les voir sur un écran, c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas le même rendu. Et c'est aussi ça aussi qu'on apporte.
C'est une volonté que vous aviez de refaire des expositions malgré le contexte sanitaire, etc., de se rassembler enfin.
Alors se rassembler enfin, on a continué à se rassembler, on n'a pas pu se rassembler de manière présentielle, on s'est rassemblé en visioconférence depuis un an et demi, on a réussi quand même depuis un an et demi à refaire quelques réunions en présentiel, là on n'en fait plus depuis fin octobre, on va tâcher d'y revenir en septembre prochain, là c'est l'occasion enfin de se réunir entre nous, aussi de faire venir le public pour qu'il découvre l'association, qu'il découvre les photos.
Du coup, le plus jeune adhérent a 12 ans, donc on peut venir dès qu'on veut, quoi.
On peut venir dès qu'on veut, dès qu'on se sent l'envie de faire de la photo et de vouloir travailler mieux ses photos. Et le plus âgé ou la plus âgée doit frôler 8 fois l'âge du plus jeune, presque.
Donc c'est un moyen aussi de s'améliorer, vous disiez, donc... Le fait qu'on puisse critiquer un peu ses œuvres face aux autres ou...
Alors c'est bien que vous utilisiez ce terme critique, parce que souvent quand on parle de critique, les gens imaginent que c'est négatif. Non, la critique c'est une façon d'établir ce qui fonctionne dans la photo. Donc quels sont les éléments qui vont bien, est-ce que les réglages étaient appropriés par rapport au sujet, est-ce qu'on arrive à bien voir le sujet. Donc il y a ça qui est proposé, et donc d'aider aussi les adhérents à mieux appréhender leur matériel, les limites. On a des adhérents qui ont démarré il y a quelques années avec des appareils photo qui étaient un peu limités. On leur a expliqué, si tu veux faire telle ou telle chose, voilà ce que tu es capable de faire avec ton appareil. Et il a réussi à améliorer ses photos. Et arrivé à un moment, on atteint les limites, mais là vraiment complètes. Donc on va changer ton matériel. On va passer à un appareil photo plus perfectionné, ou on va changer de type d'appareil photo. On peut imaginer qu'on passe du réflexe à l'hybride, parce que c'est plus intéressant, c'est plus léger, ce genre de choses.
Donc c'est un moyen d'avoir des conseils, un peu sur aussi même l'actualité des technologies, etc.
Tout à fait.
Et pour confronter un peu, du critiquer ces œuvres, ce que je disais, il y a des expositions. On peut voir exposition professionnelle et des adhérents.
Une des volontés que j'avais moi en tant que président, c'était que les adhérents puissent exposer une fois par an. Moi, quand j'ai intégré le club, il n'y avait pas vraiment d'expo qui présentait l'ensemble du travail des adhérents. On a fait une très grosse expo à l'occasion de nos 50 ans en 2014 à la SCOMAM. À l'issue, j'ai dit que ce serait bien qu'on continue, qu'on puisse avoir cette exposition annuelle. Donc je n'étais pas encore président, maintenant je le suis, donc c'est fait. J'ai proposé aux adhérents, je vous propose ce projet. Je souhaite que vous puissiez exposer tous les ans. À la fin de l'année ou en début de saison, on va dire, vous choisissez le meilleur moment, on expose une sélection de votre travail, donc 50, 60, 70, 80 photos. Et ils ont dit banco, déjà c'est bien, c'est qu'ils ont envie de montrer leurs travaux. Donc on a fait une première édition en 2018 sur l'esplanade du Châteauneuf. C'était sur une journée, les photos ensuite étaient mises chez les commerçants de la ville de Laval. En 2019, on a remis ça, sauf que là on l'a fait au musée-école. Donc on a profité en fait de faire nos 55 ans, donc c'était l'occasion de faire nos 55 ans, donc on a fait pendant 15 jours au musée-école de la Périne, une centaine de photos présentées. Rebelote en 2020, malgré le contexte, on avait une crainte, c'est qu'on puisse pas faire notre exposition, donc malgré le contexte sanitaire, on a pu faire, on a été une des rares associations à pouvoir faire ces activités telles qu'elles étaient prévues. On a eu un peu de chance, on va dire. Donc l'année dernière, on a fait cette exposition. On a rajouté à cela un événement qu'on appelle les Journées photographiques de Laval, où là, on invite 3 photographes professionnels à venir exposer leurs travaux. Donc l'année dernière, c'était Sophie Faguet, il y avait Benoît Sarrazin et Kevin Rouchos. Donc chacun ont présenté leurs travaux. Donc on était à la salle Alain Gerbault et on était au bain-douche. Cette année, on a 3 nouveaux photographes. On est à la salle des Pas Perdus du Châteauneuf. Il y aura Julie Crène, Octavie Lépine et...
Éric Médard,
voilà. Wow. Qui ont présenté leurs travaux, donc la salle n'est pas perdue.
Et quels sont un peu leur style à ces 3 photographes ?
Alors, Éric Médard, c'est un photographe animalier. Julie Crène, c'est une portraitrice d'animaux domestiques. Et Octavie fait dans la photo de portrait ou d'instant de vie. Voilà. Donc, il y a un fil conducteur, on va dire, entre les 3, même s'ils sont sur 3 domaines assez différents, mais il y a un fil conducteur dans le sens où on passe de l'animalier sauvage à l'animalier par le portrait, et puis on finit sur le portrait, quelque chose qui est plus sur le portrait.
Et ce sont 3 photographes mayennais ?
Ce sont 3 photographes mayennais, oui.
Donc 100% de la région
100% de la région. Alors ils ne sont pas forcément mayennais de naissance, mais ils sont mayennais d'adoption. Comme beaucoup de nos adhérents. Alors on a beaucoup d'adhérents mayennais, lavallois, mais on a aussi des adhérents qui sont sur l'ensemble de la Mayenne, et même en dehors. On a quelqu'un qui vient d'Ille-et-Vilaine.
Et justement, ces adhérents pourront exposer aussi au musée-école de la Périne.
C'est l'exposition qu'on appelle Nos adhérents du talent. Donc c'est la 3e édition, parce qu'on a compté 2019, on n'a pas compté celle de 2018, donc 2019, 2020, et donc 2021, troisième exposition, donc Nos adhérents du talent. Donc là, on a 43 adhérents sur les 65 qui composent le club, qui présentent 2 photos chacun.
Et vous avez pu voir un peu en avant-première quelques tirages, est-ce que c'est bien ?
C'est moi qui préparais tous les tirages.
Ah
donc,
bon, alors
ce sera une très belle expo encore, comme l'année dernière. Mais les adhérents, eux, ne savent pas. Alors, les 43 adhérents savent quelles sont leurs photos qui vont être présentées, mais l'ensemble des adhérents ne sait pas quelles sont les photos qui sont présentées. Il y a le bureau de Laval Images qui sait quelles sont les photos qui seront présentées.
D'accord, donc il y a quelques surprises même pour les adhérents.
Ah, pour les adhérents, ce sera la surprise. Donc à partir de donc dès le 16 ou 17, dès qu'on commencera l'installation, ceux qui vont venir nous donner un coup de main vont découvrir les photos. Et à partir du 18 à 14 heures, tout le monde pourra venir découvrir l'exposition. J'invite ceux qui veulent faire de la photo et qui veulent s'améliorer dans leur pratique photo de venir déjà nous rencontrer justement à l'occasion des journées photographiques de Laval. Et donc là, c'est venir l'occasion de rencontrer des adhérents, de voir des photos et de poser des questions. Et venir ensuite nous rencontrer.
L'exposition professionnelle commence ce vendredi 18 juin et jusqu'à dimanche à la salle des Pas Perdus au Château-Neuf de Laval, et celle des adhérents est au musée École de la Périne du 18 au 27 juin.
Merci beaucoup Claire, on a bien noté en tout cas toutes ces dates pour les deux expositions. Et puis on va parler sport à nouveau, à présent tu vas dire oui encore, mais non c'est pas du foot, c'est des JO, c'est de l'athlétisme et on en parle dans quelques minutes juste après Kendrick Lamar avec son titre « Aïe ».
Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna tell me. But the enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself.
The world is a ghetto, big guns and dick inside.
I love myself.
But it can do what it want whenever it want, I don't mind.
I love myself.
What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this.
I love myself.
The world is a ghetto. Big guns and dickies.
I love myself.
But they can do what they want whenever they want. Police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a model on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for basis. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile.
I love myself.
The world is a ghetto, big guns and dick inside.
I love myself.
But they can do what they want whenever they want.
Kendrick Lamar avec son titre « Aïe », son titre qui date de 2014, donc on est replongé un petit peu dans des chansons un peu plus anciennes. Mais on est déjà, et oui, le 16 juin, à quasiment un mois des Jeux Olympiques, et on vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre des sportifs mayennais qui y participent aux JO de Tokyo cet été. On le sait, hein, les champions sont nombreux dans le département, mais le ticket olympique reste toujours cher à obtenir. L'athlète Gabriel Bordier, lui, est fixé sur son sort depuis le mois d'octobre. C'est là qu'il a obtenu les minima olympiques sur l'épreuve des 20 km de marche. Il a déjà participé au championnat du monde à Doha au Qatar en 2019, mais ce seront ses premiers JO à Tokyo cet été, avec une course prévue le 5 août. Et en attendant, comment se prépare-t-il à l'échéance ?
J'ai envie de dire, on prépare un peu comme toutes les autres compétitions, parce qu'il n'y a pas de raison de changer une préparation qui fonctionne bien, comme j'ai pu le faire par le passé, en fait. J'ai mis en place des stages en altitude, là, comme je suis en train de faire aujourd'hui, à fond remue pour préparer, optimiser un petit peu la préparation, mais après, sinon, c'est similaire à d'habitude. L'avantage de l'altitude, du moins dans les sports d'endurance, c'est vraiment de travailler les capacités aérobies et puis de monter naturellement le taux de globules rouges pour pouvoir mieux supporter les efforts et puis optimiser la performance. Après, ça casse un peu la monotonie de l'entraînement aussi, de changer les lieux. Ouais, c'était vraiment l'objectif de faire les minima en octobre pour être tranquille et s'en débarrasser pour la saison d'après, quoi. C'est vrai que comme ça me faisait arriver sur cette saison de 2021 avec moins de pression. C'est vraiment l'objectif de préparer les Jeux Olympiques cet été et puis toutes les compétitions que j'ai pu avoir là. Moins de pression, en fait, au niveau de la performance, quoi. Vraiment, tout mettre sur ces Jeux Olympiques cet été et puis le reste, un petit peu entre guillemets, j'ai envie de dire. J'ai rebattu mon record de 9 secondes, donc forcément ça m'en confiance, ça montre que l'état de forme est déjà bien présent pour cet été, et puis avec la préparation on peut peut-être encore optimiser tout ça d'ici début août. Hein. C'est vrai que le calendrier il a été un peu bouleversé, là. C'est vrai qu'on aurait dû avoir les championnats de France au mois de mars, hein, qui ont été reportés à une date ultérieure, dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la date. C'est vrai que ma première course ça a été la Coupe d'Europe directement, donc sur une sélection internationale. Donc c'était pas forcément facile de recommencer sur une course comme ça en jeu. Puis finalement, c'est ma seule course sur 20 km de la saison avant les Jeux Olympiques cet été. Donc ça fait une saison assez légère. Il y aura le championnat de France Elite quand même le 27 juin à Angers quand même entre-temps, mais ce sera sur 10 km. Forcément, on repart sur un cycle d'entraînement. En fait, j'ai fait une petite coupure après mon dernier 20 km et puis on repart sur un cycle complet d'entraînement. Là. Si, il y avait une pression. Après, là, aujourd'hui, je l'ai pas encore forcément. Je la ressens pas forcément aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'en s'approchant de la compétition, forcément, il va y avoir un petit peu d'excitation, d'appréhension. Mais je pense que pour bien aborder la compétition, faut pas forcément se mettre la pression ou faut pas trop subir la pression, quoi.
J'ai lu par ailleurs que vous faisiez aussi en parallèle, vous suiviez des études de médecine et qu'il y avait le concours de l'internat qui était prévu en juin. Ça fait beaucoup de choses pour un seul mois, vous arrivez à tout gérer ?
J'alterne entre entraînement et puis révision là, pour encore 2 semaines avant mon concours et puis après je serai 100% focus sur les Jeux. Mais c'est vrai que l'année est bien chargée. Hein. C'était pas l'idée au début. Au début, je pensais faire les Jeux Olympiques en 2020 et être tranquille en 2021. Mais bon, après, c'est vrai que reporter encore une année de plus, reporter mon concours l'année prochaine en redoublant, c'est que décaler le problème, parce que l'année prochaine, on a les championnats du monde d'athlétisme, les championnats d'Europe, donc une fois que c'est fait, on a envie de dire. Après, aux Jeux Olympiques, on retrouve un petit peu les mêmes athlètes que les championnats du monde que j'ai pu rencontrer à Doha en 2019, j'avais fini 24e, donc je pense que je peux essayer de faire mieux qu'à Doha, qu'aux championnats du monde, et puis après, ça peut prendre les Jeux à la légèreté de dire ça, mais je pense que ce sera surtout la découverte, et puis de voir ce que ça peut donner pour la suite, parce que je suis très très loin du niveau de faire une médaille cet été. Je suis à presque une minute des premiers, voire plus. Donc ça ne me laisse pas espérer de faire un top 5, c'est encore très loin. Après, je ne sais pas ce que je peux espérer au niveau place. De toute façon, c'est un championnat, donc on verra jour J suivant la forme de chacun. Et puis, ne mets pas forcément de limite non plus en termes de place. Après, le chrono, ce sera anecdotique sur un championnat comme ça.
Et oui, on rappelle que Gabriel Bordier n'a que 23 ans avec déjà donc de belles ambitions, mais il peut encore progresser. Demain, l'interview d'un sportif qui, lui, a déjà plusieurs médailles autour du cou et aussi plus d'expérience, c'est normal, c'est le cycliste François Pervis. C'est l'heure des initiatives avec toi Claire, une spéciale expo aujourd'hui et on commence avec
Luttons ensemble contre les discriminations, une exposition photo proposée par l'association Les Possibles et celle Culture du Cœur. L'occasion de découvrir 10 photos en grand format réalisées par les lauréats du concours du même nom. Inauguration est demain, jeudi 17 juin de 17h30 à 18h30 dans les locaux de l'association Les Possibles, c'est 44 place Gambetta à Mayenne.
Expo toujours, et cette fois-ci c'est une étudiante qui nous propose un thème bien particulier, la Seconde Guerre mondiale.
Amélia Touin, 22 ans, est mayonnaise et étudiante en licence d'histoire à Angers. Fascinée par la Seconde Guerre mondiale, elle a prévu toute une exposition grâce à sa collection personnelle, mais aussi grâce à des prêts d'associations. On pourra y retrouver un vélo de 1940 qu'elle utilise toujours aujourd'hui, plusieurs véhicules, des costumes et des photos personnelles. C'est ce samedi et dimanche 19 et 20 juin à la salle Omnisport de Renazé. L'entrée est libre et ouverte à tous.
Eh bien, merci beaucoup Claire, et on peut retrouver toutes ces initiatives en podcast. L'émission est à retrouver sur notre site l'autreradio.fr. Et on vous le rappelle, dernier jour avant le tirage au sort pour gagner 2 places pour le dernier spectacle d'Anne Roumanoff au Carré à Château-Gontier le 24 juin à 20h30. Pour ça, il suffit simplement de vous rendre sur notre compte Instagram. Le nom, c'est l'autre radio, tout simplement. C'est la fin de notre émission L'AJT du local pour ce mercredi. Merci beaucoup Claire, à demain.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde et à demain à Château-Gontier.
Et oui, demain à Château-Gontier, changement de studio, mais toujours même horaire, midi 15, ça ne change pas. À suivre aujourd'hui, ce soir, à 19h, il y aura Novorama, suivi à 21h de Chaosphère, la dernière de la saison dédiée à l'électro. Et nous donc, pour l'AJT du local, on se retrouve demain midi. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'AJT du local.